13h, 14h, Thomas Chenel.
Bonjour à tous, bienvenue en ce vendredi 19 avril à la une de l'actualité. 2000 participants à la marche blanche en hommage à Philippe assassiné à Grande-Synthe. L'hypothèse d'un guet-apens par deux ados confirme, nous serons sur place dès le début du journal. Une cellule psychologique ouverte à Souffel-Weyersheim dans le Bas-Rhin après l'agression de deux jeunes filles au couteau. Une collégienne de 14 ans est décédée, elle avait fait un malaise cardiaque lors du confinement dans son établissement. La riposte d'Israël à l'Iran a-t-elle eu lieu cette nuit? Après les explosions dans le centre du pays, l'Iran minimise, Israël ne commente pas, on vous explique tout. Et puis la 13, fermée dans les deux sens pour une durée indéterminée, impossible de prendre l'axe majeur entre Paris et la Normandie en ce vendredi de départ en vacances scolaires. Europe 1 vous dévoile les chiffres des routes endommagées en France. Vous avez le programme à 13h02, la tendance météo, Mickaël Poteau.
Eh bien c'est très simple Thomas, c'est une France coupée en deux aujourd'hui, nuages et pluies au nord, très beau soleil dans le sud et je développe tout ça juste après votre journal Thomas.
Moment de recueillement et d'émotion à Grande-Synthe où une marche blanche était organisée pour rendre hommage à Philippe, ce jeune de 22 ans, tabassé à mort en début de semaine. Il est tombé dans un guet-apens tendu par des ados de 14 et 15 ans. Lionel Gougelot, vous êtes sur place pour Europe 1. Beaucoup d'émotion et d'incompréhension chez les participants.
Oui, des sentiments que l'on a pu deviner sur les visages graves de cette foule de quelques 2000 personnes rassemblées sous une pluie fine derrière les deux frères et les proches de Philippe en tête de cortège et cette banderole avec la photo du jeune homme auquel Dominique, un habitant, a voulu rendre hommage.
C'était une personne bien vue à Grande-Synthe comme éducateur. C'était une bonne personne, quoi. Malheureusement, cette bonne personne est partie pour rien. Vraiment, là, c'est atroce, quoi. C'est atroce.
Beaucoup de larmes, mais aussi une colère sourde parmi les participants à cette marche blanche.
Ce genre de choses, on ne peut pas l'accepter. Impossible. Ça peut être notre enfant, ça peut être tout le monde. Ça, non. Non. Ça va trop loin, c'est pas possible.
Après une halte devant l'endroit où le corps du jeune homme a été retrouvé massacré mardi matin, Yanis, un ami proche, a pris la parole à la mairie pour réclamer justice.
Des criminels s'en sont pris à un innocent et l'ont laissé pour mort sur le bitume. Pourquoi ? Pour rien. Si nous devons porter haut une parole, nous dirons haut et fort que justice soit faite pour Philippe.
Sentiment partagé par Christine, une grand-mère qui connaît bien la famille de Philippe.
Moi, je me dis qu'il devrait y avoir des plus grosses peines, même pour ces âges-là, parce qu'ils n'hésitent pas à tuer. Ça ne peut pas durer. Il faudrait que le gouvernement fasse quelque chose quand même.
Les deux agresseurs de Philippe doivent être présentés aujourd'hui devant un juge d'instruction. Le procureur de Dunkerque devrait en dire plus cet après-midi sur les derniers développements de l'enquête.
Merci. Lionel Gougelot, correspondant Europe 1 dans le Nord, en Alsace, l'adolescente de 14 ans, victime d'un arrêt cardiaque hier, en marge de l'attaque au couteau, est décédé. Le suspect, qui a blessé légèrement les deux autres fillettes, est toujours en garde à vue. Il souffre de problèmes psychiatriques. On retrouve à Souffel-Weyersheim, près de Strasbourg. Mélina Fachin pour Europe 1. Vous êtes devant le collège où l'adolescente est morte. Mélina, le collège a rouvert ce matin.
Oui, mais personne ici n'a vraiment le cœur à faire court. Un petit bouquet de fleurs jaunes a été déposé contre la porte de l'établissement. Deux gendarmes sont postés devant le collège. Lina est en sixième. Hier, pendant le confinement instauré juste après l'attaque, elle a vu l'adolescente très stressée faire un malaise dans un couloir.
Elle n'était pas bien, elle n'arrivait pas trop à respirer. Elle était debout et ses copines, ils l'ont un peu portée, quoi. Ils ont essayé de la rassurer, mais je me suis dit, la pauvre.
Lina est évidemment choquée par ce qu'elle a vécu, alors sa maman Aurélia a souhaité l'amener ce matin à la cellule psychologique mise en place dans le collège.
Pour qu'elle puisse extérioriser ce qui ne va pas, quoi. Hier soir elle est rentrée, elle était toute stressée, elle n'a pas dormi tout de suite, mais lui elle ne dormait toujours pas, quoi.
Parce que j'ai repensé à tout ce qui s'est passé, j'ai un peu peur que ça se reproduise.
Layana et Anna, deux collégiennes de 4e, ont elles aussi ressenti le besoin de parler.
C'était ma copine depuis la 6e, donc ça m'a fait très bizarre.
Elle a toujours été très gentille et souriante. J'ai de la peine, quoi.
Chaque élève qui a un dossier médical à l'infirmerie, il a ses médicaments. Elle n'avait rien, du coup c'était assez surprenant.
Cette cellule psychologique sera également ouverte lundi, premier jour des vacances scolaires ici qui démarre ce soir.
Mélina Fachin à Souffel-Weyersheim pour Europe 1. On ne connaît pas encore les mobiles de l'attaque. Le suspect est en train d'être interrogé. Il souffre de problèmes psychiatriques. Il avait été plusieurs fois hospitalisé. Visiblement, son suivi médical semble avoir été défaillant. Mais c'est tout le secteur de la psychiatrie en France qui traverse une grave crise, dénonce le professeur Michel Lejoyeux.
Nous avons aujourd'hui une crise majeure de l'attractivité avec un grand nombre de postes vacants, que ce soit des postes d'infirmiers ou des postes de médecins. Et ces manques de personnel font que les équipes ont du mal à assumer les soins quotidiens. Le nombre de lits en psychiatrie a été réduit de manière dramatique. Tous les collègues qui gèrent des services d'urgence s'arrachent les cheveux tous les jours pour trouver des lits, que ce soit pour des jeunes qui ont des conduites suicidaires, que ce soit pour des patients agités, ou que ce soit même pour le tout venant de la psychiatrie. Les malades psychiatriques sont aujourd'hui les malades qui vont rester le plus longtemps, comparé aux autres disciplines, dans un service d'urgence, sans trouver un lit d'accueil.
Le professeur Michel Lejoyeux sur Europe 1.
13h, 14h, Thomas Schnell.
Il était 4h du matin quand des détonations ont retenti dans le centre de l'Iran.
Les officiels iraniens ont d'abord annoncé de fortes explosions, puis signalé des drones abattus par la défense iranienne, moins d'une semaine après l'attaque sans précédent contre Israël. Pas de commentaire pour l'instant de l'armée israélienne. On va retrouver l'envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv, Wilfried De Villers. Wilfried, à 7h, toujours beaucoup de confusion sur l'origine de l'attaque.
Oui, confusion, c'est exactement le mot. Voilà maintenant près de 10 heures que ces explosions ont été rapportées dans le centre de l'Iran. Mais les informations les concernant sont contradictoires. D'un côté, des sources iraniennes affirment que 3 drones ont bien pénétré l'espace aérien du pays dans la nuit et qu'ils ont été abattus. De l'autre, l'agence de presse perse Tasnim a indiqué dans la matinée qu'aucune information ne fait état d'une attaque de l'étranger. Ce qui est sûr, c'est que les explosions ont eu lieu tout proche d'Ispahan, ville hautement stratégique parce qu'elle abrite d'importants sites du programme nucléaire iranien. Lors d'un discours ce matin, le président iranien Ebrahim Raisi a pris la parole sans dire un seul mot de ces explosions. Côté israélien, silence radio également pour l'instant, aucun commentaire ni du gouvernement ni de l'armée, mais un bruit de fond qui monte en coulisses. Un responsable des forces armées israéliennes affirme officieusement au Washington Post que c'est bien l'État hébreu qui est à l'origine des frappes de la nuit. Une riposte à minima, certes, mais qui montre, ajoute-t-il, qu'Israël est bien capable de frapper l'Iran en plein cœur. Une façon de restaurer une forme de dissuasion sans prendre le risque d'une guerre régionale, d'autant que ces frappes interviennent à quelques jours de Pessah, la Pâque juive, fête la plus importante de l'année ici en Israël.
Wilfried De Villers en Israël pour Europe 1. Depuis ce matin, les appels à la retenue se multiplient. Le G7 veut une désescalade absolue dans une région en proie à une grave tension, réagit le chef de la diplomatie italienne qui préside le G7. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a quant à elle appelé les partis à s'abstenir de toute nouvelle action. La Chine s'oppose à toute action susceptible d'entraîner une escalade des tensions. L'ambassade des États-Unis à Jérusalem conseille à ses employés et aux membres de leur famille de ne pas voyager en dehors des zones de Tel Aviv et de Jérusalem. Et l'Australie exhorte ses ressortissants à quitter Israël et les territoires palestiniens. Dans un instant, les pistes de Gabriel Attal pour durcir encore les règles de l'assurance chômage. Le Premier ministre confirme son projet de nouvelle réforme pour réduire la durée d'indemnisation, modifier les conditions d'ouverture de droit et baisser le montant de l'allocation. On vous livre les détails sur Europe 1.
Thomas Schnell vous informe cette semaine de 13h à 14h sur Europe 1.
Europe 1 13h.
01 80 20 39 21 pour réagir au sujet d'Europe 1 13h avec Thomas Schnell. Et votre journal, Thomas, se poursuit maintenant avec la nouvelle charge de Gabriel Attal contre les règles de l'assurance chômage.
Le Premier ministre souhaite voir aboutir une nouvelle réforme d'ici à l'automne prochain. Hier soir, il a dévoilé les leviers qu'il pourrait enclencher. 3 possibilités sont ouvertes, Baptiste Morin.
Oui, il y a plusieurs façons de réformer l'assurance chômage. Vous pouvez toucher à la durée d'indemnisation, c'est ce qui a été fait récemment. Désormais, un chômeur est indemnisé pendant 18 mois au lieu de 24 par le passé. Vous pouvez toucher au montant de l'indemnité. Depuis 2021, par exemple, elle baisse au bout du 7e mois pour les hauts revenus. Ou vous pouvez toucher au temps qu'il faut avoir travaillé pour pouvoir prétendre à une indemnité chômage. Et c'est sur ce levier que Gabriel Attal veut agir. Aujourd'hui, il faut avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers. Il y a déjà eu une modification de ces règles en 2021. Une nouvelle réforme pourrait consister à allonger cette durée minimum de 6 mois sur 24, ou alors à exiger que ces 6 mois de travail soient réalisés sur une durée moins longue. Gabriel Attal a en tout cas été clair, la nouvelle réforme doit cibler ceux qui enchaînent contrats courts et période de chômage.
Le ministre délégué à l'industrie se dit prêt à recevoir les acheteurs potentiels de Biogarant. Si le fabricant français de médicaments génériques est vendu, les conditions seront drastiques, prévient Roland Lescure, qui ne souhaite pas cette vente, alors que le gouvernement cherche plutôt à faire venir en France les grands laboratoires. Prenez garde, si vous devez vous rendre en Normandie ce week-end, la 13, principal axe depuis Paris, est fermée dans les deux sens pour une durée indéterminée. Fermeture aux portes de Paris jusqu'à Vaucresson. Le trafic est interrompu depuis hier 23h suite à la découverte de problèmes d'infrastructures sur la chaussée, selon la direction des routes d'Île-de-France. Des routes parsemées de nids de poules, des accotements dangereux, des signalisations presque invisibles, tous les automobilistes le constatent. L'état du réseau français inquiète même la Cour des comptes qui dénonce un défaut de stratégie nationale alors qu'il est indispensable au transport de marchandises. Margot Faudéré, qui gère quoi et combien ça coûte ?
Avec plus d'un million de kilomètres, dont une majorité de petites routes, le réseau routier français est l'un des plus grands d'Europe. En revanche, il est loin d'être le mieux entretenu. Alors que la France était en tête du classement mondial de la qualité des infrastructures routières en 2012, elle a été reléguée à la 18e place 7 ans plus tard, en cause notamment une baisse des investissements dans le réseau. Et la situation budgétaire actuelle n'arrange rien, explique André Léniel de l'Association des maires de France.
Quand on est budgétairement contraint, l'une des variables d'ajustement, c'est le report d'investissement ou d'entretien sur les routes pour l'ensemble des collectivités territoriales, mais aussi pour l'État.
En 2022, seulement 9 milliards d'euros ont été investis dans les voiries par les administrations publiques, selon l'Observatoire national de la route, 20% de moins que 10 ans auparavant. Pourtant, plus on attend pour rénover, plus ça coûte cher, rappelle Florence Fournier du syndicat Les Routes de France.
Si vous ne mettez pas 1 euro aujourd'hui, ça vous coûtera 10 euros dans quelques années, en 5 ans par exemple. Et donc proportionnellement parlant, c'est pas du tout intéressant d'attendre que ça dégrade encore, quoi.
Aujourd'hui, entretenir 1 km de national coûte en moyenne 120 000 euros.
Comme une impression que l'hiver voudrait se rappeler à notre bon souvenir en cette fin de semaine, alors que le début du printemps est particulièrement doux. Les gelées ont fait leur réapparition en plaine. Il a fait 1 degré à Lyon, moins 1 à Limoges, moins 3 à Aurillac. Les températures repassent en dessous des normales de saison sur l'ensemble du territoire et ça va encore diminuer à partir de dimanche. Beaucoup d'inquiétudes chez les arboriculteurs. Dans le Tarn-et-Garonne, les cultivateurs de prunes craignent un gel destructeur, Charles Lullier.
Dans cette exploitation de 10 hectares, les prunes, encore très vertes, ont pour l'instant été épargnées par le gel. Mais Dorian, qui aide ses parents dans les vergers, n'est pas tranquille. Hier matin encore, il n'y avait que 2 degrés.
On n'est pas serein. Tous les matins, on peut avoir une gelée et tout emporter. La nuit, on ne dort pas très bien.
Inquiétude légitime, car ici, pas assez de bras pour placer des bougies qui réchaufferaient les vergers. Pas assez de moyens non plus pour installer des sondes de température. Dorian fait donc comme il peut.
En termes de gel, on n'est pas équipé. Donc on suit la météo à la télé, mais on n'a pas de sonde dans les champs ou quoi que ce soit. Donc quand il gèle, nous malheureusement on ne peut rien y faire.
Un gel qui peut ici avoir des conséquences catastrophiques. Marie, la maman, en sait quelque chose.
2021 du gel, 2022 le gel qui nous a tout ravagé. On a eu 50% de pertes. Ça va d'aller 80 000 euros, hein, le déficit, uniquement à cause de la météo. Il faut attendre que la prochaine récolte vienne.
Si les prunes survivent à cet épisode de froid, il faudra, juste avant la récolte estivale, affronter un dernier adversaire, l'orage, et il est tout aussi dévastateur. À Moissac, Charles Lhuillier, Europe.
Le rêve européen est à portée de ballon pour les joueurs de l'OM au lendemain de la qualification des Marseillais en demi-finale de l'Europa League. Hier soir, l'OM a éliminé le Benfica à Lisbonne au tir au but devant un vélodrome en fusion, en pamoison devant son héros du soir, Faris Moumbagna, dont la tête a propulsé l'OM vers le dernier carré. Ce sera face à l'Atalanta Bergame le 2 mai prochain. C'est le début ce soir de la 30e journée de Ligue 1. Nice, 5e du classement, reçoit Lorient, le 16e qui vise le maintien. Et puis, elle est dans les oreilles de tous les plus jeunes. C'est la première artiste milliardaire grâce au seul revenu tiré de sa musique. On lui devrait même la hausse du PIB américain. Elle pourrait aider Joe Biden à remporter la présidentielle de novembre. Le phénomène Taylor Swift, prête à battre tous les records avec son nouvel album. Le 11e opus de la mégastar est sorti ce matin, The Tortured Poets Department, le département des poètes torturés dans la langue de Molière. C'est tout un univers, Mathieu Prieur.
Du rock, de la country et même du rap, Taylor Swift se dépasse une fois de plus. 31 titres, certains rythmés et d'autres plus mélancoliques, comme Fortnite en duo avec Post Malone, connu pour ses compositions pop. Les fans ont l'habitude, dans ses albums, Taylor Swift parle souvent d'amour et surtout de rupture. Celle avec l'acteur britannique Joe Alwyn lui aurait inspiré quelques titres, dont So Long London, Au revoir Londres, avec des paroles qui visent hasard ou pas une personne venant d'outre-Manche. Changement d'ambiance avec Florida en duo avec le groupe Florence and the Machine. La star de 34 ans est la première artiste à être devenue milliardaire seulement grâce aux revenus tirés de sa musique. Mais pour Taylor Swift, l'essentiel n'est pas là. Elle a récemment déclaré au sujet de ce nouvel album, « Écrire la musique, c'est ce qui me fait tenir debout ».
Et le Swiftie Mathieu Prior ne manquera pas sans doute la tournée de Taylor Swift en France, début mai, Paris et Lyon, où sa venue les 2 et 3 juin fait bondir de 49% les recherches de vol vers la capitale des Gaules selon le réseau d'agences de voyage Opodo. Il est 13h18 sur Europe 1. Comme chaque jour, le point sur les marchés avec Claire Lemaître de boursier.com. Claire, les places européennes sont déstabilisées, places boursières d'ailleurs, par les événements géopolitiques.
Oui, un marché parisien nerveux, mais qui limite quand même ses pertes après les explosions signalées en Iran. Le CAC 40, 7,04%, 7991 points. On surveille les cours du pétrole. Le Brent a repassé les 90 dollars cette nuit après cette attaque. Là, il revient sous les 87 dollars. À côté, valeur, L'Oréal limite le repli du CAC après sa bonne publication. Chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le premier trimestre, le titre L'Oréal bondit de 4%. Résultat trimestriel salué aussi pour Sodexo, le groupe de restauration collectif qui gagne 4% lui aussi. Ces tensions géopolitiques pèsent sur les indices en Europe. Londres et Francfort 7,06%, moins 0,5% pour Amsterdam, moins 0,4% donc à Paris pour le CAC 40, 7991 points.
Merci Claire Lemaître de boursier.com. La météo, Michael Poton, a une France parfaitement coupée en deux.
Exactement Thomas, et c'est la Loire qui joue les frontières. Alors je vais peu détailler ce qui se passe au sud de la Loire, donc puisqu'on va profiter d'un soleil bien généreux, malgré quelques petits passages nuageux sur le nord lyonnais. Il y a plus de choses à dire au nord de la Loire, donc avec un ciel plus chaotique, de la grisaille annoncée de la Bretagne à la Bourgogne, quelques averses pour la Normandie, l'Île-de-France et le nord, et plus on s'approche des frontières allemandes et suisses, plus les pluies s'intensifient. En revanche, le seul point commun, sauf en Nouvelle-Aquitaine et dans le Massif central, c'est le vent, 40 à 60 km partout. Km par heure, évidemment. Les températures, 9 à Belfort, 10 à Strasbourg, 12 à Arbois dans le Jura, 14 à Paris et au Havre, 16 à La Rochelle et à Caen, 17 à Limoges et jusqu'à 21 degrés à Cahors et Pau, même 22 à Perpignan. Et pour ce week-end, samedi comme dimanche, temps perturbé dans l'est du pays, des frontières belges à la Suisse en débordant en Bourgogne et sur l'île de France avec des averses. Et plus on se rapprochera de la façade atlantique et de la Méditerranée, plus le temps se dégagera. 8 à 21 degrés au meilleur de la journée samedi, 6 à 19 dimanche.
Merci Michael. La confusion au Proche-Orient après les explosions en Iran. Moins d'une semaine après l'attaque contre Israël, Téhéran minimise, l'armée israélienne ne commente pas. On tentera d'y voir plus clair dans un instant avec notre spécialiste. Et puis on reçoit nos chroniqueurs, l'ancien juge d'instruction Georges Fenech, l'avocat essayiste Gilles William Goldanel seront avec nous en studio.
Europe 1 13h.
De 13h à 14h avec Thomas Schnell cette semaine et vous accueillez maintenant Thomas vos chroniqueurs pour lancer le débat.
Oui, nous sommes avec Gilles William Goldanel et Georges Fenech avec nous jusqu'à 14h. Mais tout d'abord, ces appels à la désescalade qui viennent depuis tôt ce matin de Chine, d'Italie, de l'Union Européenne. Il est toujours compliqué à 13h24 de dire ce qui est à l'origine d'explosions dans le centre de l'Iran cette nuit. Des médias américains évoquent des frappes israéliennes. Bonjour Dominique Trinquant. Général, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, Dominique Trinquant, vous êtes avec nous. Est-ce que vous pouvez nous dire si on assiste ces dernières heures à la riposte d'Israël ?
Alors, à la riposte ou à un début de riposte ? La frappe qui a eu lieu cette nuit, enfin du moins les frappes qui ont eu lieu cette nuit sont effectivement très obscures puisque l'Iran nie avoir eu toute attaque de l'extérieur, alors que les informations que nous avons reçues de la part en particulier des Américains informés par les Israéliens seraient bien des frappes israéliennes. Ça semble être une réplique à ce qui s'est passé il y a une semaine, mais compte tenu des résultats obtenus qui sont contestés par l'Iran, on peut penser qu'il s'agit pour les Israéliens de marquer le fait qu'ils voulaient riposter, qu'ils n'ont pas tenu compte des alertes iranienne qui avait dit surtout ne frappez pas sur notre territoire, mais que les Iraniens n'ont probablement pas les capacités d'escalader et donc préfèrent en rester là. Et donc, d'une certaine façon, répondent même pas peur et rien ne s'est passé.
On évoque des drones pour l'instant, rien de massif, c'est chirurgical, c'est pour marquer le coup ?
Écoutez, ça peut avoir deux effets. Le premier effet, c'est de provoquer les Iraniens pour voir si les Iraniens veulent répliquer, et à ce moment-là, c'est de leur responsabilité d'escalader. Le deuxième objectif, c'est probablement aussi de faire du renseignement. Je rappelle que dans ces frappes, il y a eu d'abord une destruction d'un radar en Syrie qui permettait d'observer Israël. Donc ça permet de dégager le terrain, si j'ose dire. De frapper également dans la région, en Irak, dans la région de Bagdad, sur un bâtiment dans lequel il y avait des chefs du Pasdaran, encore eux. Et puis finalement, d'après les informations qu'on a eues, non pas des drones, mais des missiles qui seraient allés dans la région d'Ispahan et qui permettraient de dire aux Iraniens, nous sommes capables de vous atteindre là et en même temps d'obtenir des renseignements sur le système de défense antiaérien de la région d'Ispahan.
Merci beaucoup pour vos éclairages, Dominique Trinquant, général, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU sur Europe 1. Alors, avec nous dans le studio, Gilles-William Goldanel, Georges Fenech, bonjour à vous.
Bonjour.
Ni Israël ni Iran n'ont encore réagi pour l'instant, c'est normal en tout cas, ils n'ont pas avancé de certitude.
D'abord, moi, j'ai pas l'expertise militaire du général Trinquant, et à ce degré d'information, je veux dire, c'est très difficile de spéculer pour spéculer. Ce que je sais simplement, et ce dont je suis sûr, c'est qu'Israël est placé dans une alternative assez diabolique, soit de ne rien faire, parce que depuis la dernière frappe iranienne, la situation israélienne sur le plan diplomatique et stratégique est bien meilleure, puisqu'elle a prouvé des capacités défensives hors pair et qu'elle a fait oublier la situation de Gaza. Et faire, c'est parce qu'il y a une grande utilité, au-delà de vouloir totalement montrer sa dissuasion, c'est de détruire l'appareil nucléaire des Mollahs. Donc les deux ont des avantages et les deux ont des inconvénients.
Pas de réaction officielle, Georges Fenech ?
Non,
des deux pays, d'aucune part.
Il n'y a pas de réaction officielle. Je pense que du côté iranien, on doit vouloir en rester là. Et je pense que, de ce qu'on peut comprendre, du côté israélien, on ne veut pas en rester là. Et qu'effectivement, tous les spécialistes nous disent qu'on est à quelques mois de la fabrication de la bombe. On imagine mal le gouvernement de Netanyahou ne pas réagir avant que, je dirais, l'irréparable ne puisse se commettre.
Merci messieurs, 13h28 sur Europe 1, on va marquer une pause juste après le journal permanent. Les annonces de Gabriel Attal qui dénonce une addiction à la violence. Le Premier ministre a présenté hier une série de mesures, on verra ensemble si elles sont d'envergure à lutter contre la violence des jeunes qui a fait de nombreux drames ces dernières semaines en France.
Et vous pouvez bien sûr participer et réagir en direct en appelant ce numéro non surtaxé 01 80 20 39 21. Europe 1 13h se poursuit dans un instant, à tout de suite.
Europe 1, le journal permanent.
13h31 sur Europe 1, forte mobilisation à Grande-Synthe dans le Nord ce matin. 2000 participants à la marche blanche en hommage à Philippe, 22 ans. Il est mort à la suite d'une agression mardi en pleine nuit dans ce qui pourrait être un guet-apens. Deux mineurs de 14 et 15 ans ont été arrêtés. Ils doivent être présentés aujourd'hui à un juge. L'émotion très forte en Alsace après le décès d'une collégienne de 14 ans en marge d'une attaque au couteau hier près d'une école par un déséquilibré. L'adolescente a fait un arrêt cardiaque alors que les élèves étaient confinés dans leur classe. Une cellule d'urgence psychologique est mise en place au sein du collège. L'assaillant, âgé de 30 ans, lui a été arrêté. Réaction prudente après la riposte israélienne à l'Iran. 3 explosions ont été rapportées près d'une base militaire dans la région d'Ispahan. Aucun dégât, selon l'agence officielle iranienne IRNA. Il n'y a pas eu d'attaque, affirme un autre média iranien. Pas de commentaire pour le moment du côté israélien ou américain. L'Union européenne appelle à nouveau à la retenue, la Chine à la désescalade. 1 sur 2, Marseille est qualifié pour les demi-finales de Ligue Europa. 4-2 au tir au but face au Benfica Lisbonne, alors que Lille a été éliminée par Aston Villa en Coupe de la Ligue Europa Conférence. 3 tirs au but contre 4 pour les Anglais. Et puis pas de chance si vous vous apprêtez à prendre la route dans l'ouest parisien direction la Normandie. La 13 est fermée dans les deux sens entre Paris et Vaucresson. Des problèmes d'infrastructure sur la chaussée ont été détectés. On ne sait pas encore quand elle rouvrira.
13h33, le débat continue avec vous Thomas Schnell et vos chroniqueurs d'Europe 1 13h.
Et avec Gilles-William Goldanel, avocat et essayiste, et l'ancien juge d'instruction Georges Fenech. Justement, hier, on a vu Gabriel Attal marquer ses 100 jours à Matignon avec ce discours contre la violence des jeunes. Il l'appelle à un sursaut d'autorité. Parmi les mesures, on va y arriver très concrètement. Le Premier ministre souhaite notamment réduire l'excuse de minorité qui est prévue pour atténuer les peines. Est-ce que ce n'est pas dangereux, Georges Fenech?
Ça ne changera strictement rien, en fait, dans la réalité judiciaire. Il veut réduire l'excuse de minorité. Alors déjà, on a entendu les tribunaux pour enfants, la présidente de l'association, une magistrate, dire que tout le bien qu'elle pensait de l'excuse de minorité. Entre 13 et 16 ans, elle continuera à s'appliquer de plein droit. Enfin, c'est certain. La question, c'est entre les 16 et 18 ans. Aujourd'hui, quel est l'état du droit? Ben, l'état du droit, c'est qu'un juge, il peut d'ores et déjà écarter l'excuse atténuante de minorité. Voyez-vous, est-ce qu'il faut rendre obligatoire, enfin, est-ce qu'il faut faire disparaître l'excuse entre 16 et 18 ans? Admettons qu'on le fasse, j'en doute, mais admettons qu'on le fasse. Ça n'empêchera pas le tribunal pour enfants ou une cour d'assises de mettre le minimum de la peine. Sans dire excuse, ils diront, je ne sais pas, circonstances atténuantes, volonté de réinsertion. Le dernier mot, c'est ce que je voudrais vraiment répéter, le dernier mot appartient toujours au juge, quoi que fasse le politique. Et tant que vous aurez une idéologie très infiltrée au sein notamment des tribunaux pour enfants qui sont restés arc-boutés sur l'ordonnance de 1945 avec comme priorité le primat de l'éducatif, la sanction jamais, tant que vous aurez ces mots d'ordre d'un syndicat de la magistrature, dont le garde des Sceaux a dit qu'il n'était plus un syndicat de justice, je le dis au passage, tant que vous aurez ces mots d'ordre lancés par une idéologie au sein des tribunaux pour enfants, ça a été l'échec jusqu'à maintenant, ça sera l'échec encore demain, sauf à empêcher précisément qu'une justice soit dévoyée par une idéologie, qu'elle reste une justice et qu'elle redevienne une justice impartiale et indépendante.
Et alors je me tourne vers l'avocat, Gilles-William Goldanel, que vous êtes notamment. Cette comparution immédiate possible pour les jeunes de 16 ans qu'ils souhaitent voir, alors qu'aujourd'hui ils n'ont pas, c'est à partir de 18 ans qu'ils peuvent comparaître en comparution immédiate, est-ce que c'est sa place d'un jeune de 16 ans dans un tribunal en comparution immédiate?
Un jeune de 16 ans aujourd'hui, c'est un jeune de 20 ans il y a 30 ans. Ils sont plus grands, ils sont en liberté totale, ils font ce qu'ils veulent. Physiquement parlant, ils sont plus grands. Donc, il faut savoir aussi évoluer psychiquement, physiologiquement. Moi, je rejoins complètement Georges Fenech sur son analyse de l'idéologie judiciaire. D'ailleurs, c'est pas que l'idéologie judiciaire, c'est l'idéologie des prétendues élites. La sociologie du magistrat, c'est la même que la sociologie du journaliste, statistiquement parlant. C'est exactement la même, il faut comprendre. Donc, je n'ai rien contre M. Attal, je n'ai rien contre lui. Mais aujourd'hui, d'une certaine manière, le discours, pour répéter toujours les mêmes choses, est un signe d'impuissance. Moi, je l'ai vécu, pardon, il y est pour rien, mais enfin, il y est pour rien. Il est quand même issu, choisi par un président de la République dont l'une des ministres de la justice a décidé de séparer le jugement de la sanction pour les mineurs, ce qui est invraisemblable. C'est complètement contre-productif. Alors, au contraire, la sanction devrait être immédiate. Et aussi, c'est celui qui disait qu'il allait construire des prisons et qu'on a, pour ainsi dire, pas construite. J'entendais la présidente de l'Union syndicale des magistrats hier, ou le président, je ne sais plus, parce qu'il n'y a pas que le syndicat de la magistrature. Bon, le syndicat de la magistrature, c'est le syndicat du mur des cons, c'est très caricatural. Mais même des syndicats plus modérés, je l'entendais hier, nous expliquer sérieusement qu'il y avait de la population carcérale. Mais il y a une population carcérale, si vous comparez avec les autres pays européens, il y a moins de sanctions que dans d'autres pays européens. Mais c'est parce que on manque de prisons. C'est pour ça qu'il y a une surpopulation carcérale. Il faut bien l'entendre.
Georges Fenech.
Pour que vous compreniez que tout cela ne mènera en réalité, et je le regrette, je ne déplore à rien, on nous dit par exemple, on va engager la responsabilité parentale sur le plan pénal. Sauf que ça existe depuis de nombreuses années. C'est l'article 227-17 du Code pénal qui prévoit jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Jamais appliqué par les tribunaux. Jamais appliqué par les tribunaux.
Donc la menace de le passer à 3 ans, c'est un écran de fumée.
On nous sort, oui, on va monter les pénalités à 3 ans. Mais déjà, à 2 ans, c'est jamais appliqué, voyez-vous. Après, on nous dit, on va faire payer les parents. Mais que je sache, la responsabilité civile des parents sur la délinquance de leurs mineurs, elle existe déjà. Et elle n'est pas appliquée. Pourquoi ? Parce que ses parents sont démunis. On nous avait dit 1 milliard de dommages, 1 milliard de dégâts lors des émeutes de juin. J'aimerais qu'on vienne nous dire qui a payé le milliard. Est-ce que ce sont les parents des jeunes de 17 ans ou est-ce que ce sont les impôts ? Hein ? Après, on nous dit il y aura possibilité de les placer dans un internat. Mais ça existe déjà. Dans le cadre de la protection judiciaire de la jeunesse, lors de l'an 58, le juge des enfants peut retirer un enfant à sa famille lorsqu'il y a carence éducative, par exemple, et le placer dans un internat. Mais ça ne se fait pas.
Et les travaux d'intérêt général sont prévus déjà pour les parents.
Et les travaux d'intérêt général, si vous n'avez pas le consentement de la personne, c'est irréalisable et ça existe déjà. Encore une fois, tout cela, malheureusement, je le déplore, c'est de la poudre aux yeux.
Je voudrais ajouter un mot. C'est qu'il faut effectivement de la prévention et de la répression. La première prévention aujourd'hui, pour mettre les pieds dans le plat, c'est la fin de l'immigration. Aucune intégration n'est possible sans la fin de l'immigration. Et si ça n'est pas fait, nous ne nous en sortirons pas, il faut être clair. Et la répression, c'est ce dont on vient de parler, c'est d'avoir des juges qui savent sanctionner.
Et au niveau des moyens, on parle là de sanctions, mais on le sait, on manque d'enseignants, on veut mettre les élèves de 8h à 18h au collège, on manque d'assistants d'éducation, on manque de magistrats, on manque de main-d'œuvre dans les cours aujourd'hui, même l'aide sociale à l'enfance est dans une situation intenable. Pourquoi ne pas commencer par mettre les moyens là où aujourd'hui tous les acteurs le réclament, plutôt que d'avancer de nouvelles pistes de réflexion?
C'est pas une question de moyens. Je suis désolé, c'est pas une question de moyens. Regardez tous les efforts budgétaires qui ont été faits par M. Darmanin pour la police. Il en a reçu des effectifs et des moyens, notamment à Marseille, on l'a vu. Est-ce que pour autant ça change les choses? Non, pourquoi? Parce que vous avez le maillon de la chaîne pénale, c'est-à-dire le dernier maillon le plus important, qui sera toujours défaillant. La police fait son travail, la justice, malheureusement, surtout quand il s'agit de mineurs, ne suit pas. Alors, qu'il y ait des insuffisances ici ou là, bien sûr. Qu'il faille rattraper des retards, bien sûr, mais ce n'est pas les moyens budgétaires qui régleront un problème qui relève avant tout d'une philosophie pénale.
Pour les moyens budgétaires, on va parler maintenant des comptes de la France qui sont clairement dans le rouge et le ministre, le Premier ministre qui a proposé de durcir à nouveau les conditions d'accès au chômage. L'assurance chômage, il veut une réforme à l'automne, le Premier ministre. Il l'a dit hier, ma priorité c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de Français qui travaillent. Réduire la durée d'indemnisation, modifier les conditions d'ouverture de droit, baisser le montant de l'allocation, c'est une façon, selon vous, de lutter contre le chômage en France? Ça a apporté ses fruits lors des précédentes réformes?
En tous les cas, ça ne me choque pas. Et clairement, en ce qui concerne justement la dette, de manière générale, régler en partie cette dette en ne favorisant pas certains chômeurs professionnels, en ce qui me concerne, je n'ai aucun état d'âme particulier. Je ne suis pas sûr que ça suffira, mais en tous les cas, cette proposition ne me choque pas.
Alors, permettez, ce serait peut-être le seul point de désaccord que nous aurons avec Gilles William, parce que...
Oui. J'ai affaire à un gauchiste, évidemment.
Oui, bien sûr. Ouais. Je trouve que c'est un peu facile de s'en prendre à une catégorie, les chômeurs, pour dire on va baisser le déficit de la France. D'abord, ça ne changera rien sur le plan de la masse monétaire et de la masse du déficit que nous avons. Et puis, moi, je ne crois pas à cette catégorie de chômeurs professionnels, à part quelques exceptions, bien entendu. Je pense que personne n'a envie d'être resté au chômage. Il faut, bien entendu, faire tout pour que l'assistanat ne soit pas mieux rémunéré que le travail. Mais je crois qu'on a fait une réforme sur l'assurance chômage, il n'y a pas si longtemps que cela.
2021.
Pourquoi vouloir toujours cibler cette population qui est une population vulnérable?
Alors, il a également parlé de cibler les plus riches, notamment Gabriel Attal voudrait imposer, c'est une piste également avancée par Bruno Le Maire, de vouloir instaurer une taxe universelle pour les revenus les plus riches. Est-ce que ça, c'est un moyen aussi peut-être de renflouer les caisses, entre guillemets?
Ouais. C'est la question de la fiscalité, elle est complexe. Hein. Je crois qu'il y a un moment, il y a un seuil où il faut arrêter de fiscaliser les moyens revenus, les plus hauts revenus. Moi, je crois que le problème du budget de la France, c'est avant tout un problème de croissance économique, donc de confiance dans l'état de notre pays, de façon à ce qu'on puisse retrouver le goût du travail, à lutter contre des concurrences déloyales. C'est tout le débat qu'on a eu notamment sur le monde agricole. Mmh. Et c'est comme cela qu'on réussira à assurer nos dépenses et puis réduire les dépenses publiques. Réduire les dépenses publiques, et notamment en dégraissant le mammouth administratif, les strates des collectivités à n'en plus finir. Plutôt que d'aller chercher nos petits chômeurs professionnels dont parle Gilles-William Goldanel.
Gilles-William Goldanel, instaurer une imposition minimale des revenus dans le monde, c'est
non,
une...
Non, mais d'abord, ça veut dire que ça ne sera jamais fait. qu'on soit clair. Dans d'autres pays du monde, on n'a pas la manie de l'impôt qu'on a en France, d'une manière presque socialiste. Hein. Tout régime confondu. Nous sommes au moins... Sur ce point-là, on est champion du monde en matière de contribution fiscale directe et indirecte. Donc vouloir encore, même pour une certaine catégorie, augmenter, c'est une vraie folie. La réalité, c'est que M. Macron, au départ, était plutôt de gauche sur le plan sociétal et de droite sur le plan économique. Il ne l'est même plus. Il a réussi à faire croire aux gens que l'argent magique, ça existait. Et on est aussi champion du monde de la dette. Non mais la réalité, elle est là. Et de l'impôt, et de la dette. Ce qui est quand même assez contradictoire.
Gilles-William Goldanel, Georges Fenech, vous restez avec nous. Dans un instant, on va revenir sur l'état catastrophique des routes en France. Un plan national devrait être lancé selon la Cour des comptes qui parle de graves défauts, de graves manquements. On reviendra également sur la conférence en plein air de la France Insoumise hier soir à Lille et les propos de Jean-Luc Mélenchon qui font débat ce matin. À tout de suite.
Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en direct pour Europe 1 13h en composant le 01 80 20 39 21. À tout de suite.
Europe 1.
Thomas Chenel est sur Europe 1 jusqu'à 14h avec la suite du débat en compagnie de vos chroniqueurs, Thomas.
Avec nos chroniqueurs Gilles-William Goldanel, Georges Fenech, veut-on faire taire Jean-Luc Mélenchon? Le leader de la France Insoumise a dû se contenter hier soir à Lille d'un rassemblement en plein air. À deux reprises, la conférence qu'il voulait tenir sur la Palestine a été interdite, d'abord par l'université puis par la préfecture. Et devant un millier de personnes, Jean-Luc Mélenchon a fait référence aux heures les plus sombres de la France, la rafle du Veldiv. Il a même fait un parallèle entre le président de l'université et Adolf Eichmann, qui se serait contenté d'appliquer les ordres. Adolf Eichmann, c'est l'artisan de l'extermination des Juifs d'Europe. C'est un dérapage chez Louis-William Goldanel.
Mais Monsieur Mélenchon dérape en permanence. Réellement, par moments, je me demande si je ne dois pas porter un regard quasi psychiatrique sur cet homme-là aujourd'hui. Votre question, c'est faut-il interdire, faut-il faire taire Monsieur Mélenchon? Moi, de manière générale, je ne suis pas pour faire taire les gens, même lorsqu'ils sont dans l'outrance la plus complète. J'avais par exemple fait condamner Dieudonné, mais je n'étais pas pour interdire Dieudonné. Le problème avec Mélenchon, c'est que comme l'extrême-gauche, et son extrême-gauche à lui, veut faire taire tout le monde, mais tout le monde, ils sont pas contre, hein, j'avoue que ma compassion est limitée lorsqu'il lui arrive ce genre de déboire. Ensuite, ces comparaisons, si vous voulez, ces comparaisons, ce sont des gens qui n'aiment pas que l'on compare Doriot à Mélenchon, mais lui est capable de comparer un président d'université à Eichmann. Il parle du Veldiv sans, en réussissant d'ailleurs le tour de force de ne pas prononcer le mot juif. Il est quand même extrêmement fort. Non, moi, il est très clair que les derniers jours montrent que maintenant, même si je ne crois pas au diable, c'est ce parti-là et pas un autre qui est diabolisé. Et d'une certaine manière, c'est mérité.
Le débat démocratique doit s'exprimer coûte que coûte, Georges Fenech.
Absolument, absolument. Moi, je suis aussi attaché viscéralement à cette liberté d'expression qui a été inscrite dans le marbre, notamment pour la presse en 1881. Qu'il faut absolument préserver, mais je peux comprendre parfaitement et je partage la décision de la faculté de Lille parce qu'on ne doit pas politiser à ce point une université. C'est pas ça le débat et la réflexion universitaire. Par contre, ce que je n'ai pas compris, c'est la décision du préfet. puisque ensuite il a interdit la conférence dans un autre lieu, un lieu privé. Je l'ai d'autant moins compris qu'il y a eu de la friture apparemment sur la ligne entre le préfet et l'État qu'il est censé représenter, puisque Macron l'a désavoué. Monsieur Macron l'a désavoué ensuite en disant qu'il fallait laisser s'exprimer Monsieur Mélenchon comme Monsieur Zemmour. Donc on voit bien qu'on est en pleine cacophonie là en ce moment sur ces questions-là. Mais ce qui est ignoble à mes yeux, en tout cas, c'est le sous-texte avec Eichmann, bien entendu. Et ça, je partage l'avis de Gilles William, il y a vraiment un problème aujourd'hui flagrant, patent, chez Jean-Luc Mélenchon.
Il faut reconnaître quand même qu'il fait venir, dans sa conférence Madame Rima Hassan.
Militante franco-palestinienne.
Militante franco-palestinienne, mais ça c'est pas grave que ça soit une militante franco-palestinienne. Ce qui est plus grave, c'est quand on lui demande, après le 7 octobre, si les actes du Hamas sont légitimes, et qu'elle réponde oui. À ce degré-là, si vous voulez, de perversion intellectuelle et morale, on a quand même un problème à la France insoumise.
Après cette conférence qui portait sur la Palestine, en soi, en France, il n'est pas interdit d'être pro-Palestine. C'est une position que l'on peut avoir. D'où l'interrogation d'interdire cette conférence.
Attendez. Non, c'était le symbole qu'il fallait empêcher. Le symbole, vous savez, la carte avec... Israël,
ce logo de l'organisation étudiante qui préparait ça.
Israël qui disparaît de la carte.
Et qui englobait effectivement les territoires.
Il n'y aurait pas eu ça. À mon avis, on ne l'aurait pas interdit. Mais c'est ça qui est extrêmement choquant.
Dans tous les tout pays du monde, y compris aux États-Unis, cette carte-là, si vous voulez, du Jourdain à la mer, elle est synonyme d'antisémitisme. Très clairement.
On en vient à l'état des routes en France. 20% du réseau routier français est très endommagé. Vous le constatez, messieurs, vous le voyez sur les axes que vous empruntez.
Comme tout le monde.
Enfin, écoutez, monsieur Pro, tout à l'heure...
C'est moqué de vous.
J'entends tout.
Juste avant l'émission, à 12h55 sur Europe 1.
Riait de mon manque de compétences en la matière, je dois reconnaître qu'il n'avait pas tout à fait tort. Mais ce que je sais quand même, permettez-moi de vous dire quand même, et pour faire mentir un peu Pascal, c'est que le Normand qui vous parle vous indique, et je ne crois pas que ça soit encore résolu, que la 13 qui conduit de Paris à Rouen notamment, et a été fermée, et l'est sans doute au moment où je parle encore, compte tenu de l'état des routes.
À durée indéterminée. Alors, on va prendre la température sur le terrain à présent sur Europe 1, avec justement un maire qui est confronté à ces difficultés de restaurer les routes. Bonjour Luc.
Bonjour. Bonjour à vous.
Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes justement en Normandie. Alors, racontez-nous comment ça se passe dans votre commune, à quel point les routes sont dégradées.
Alors oui, c'est un constat. Alors, je voulais juste commencer par dire que tous les maires de France ont envie d'avoir des belles routes. Sécurisé surtout, et joli. Et le seul problème, c'est que ces routes, elles nous coûtent très cher. Elles coûtent très cher pour deux raisons essentielles. Alors, la première raison, et M. Fenech l'a évoqué tout à l'heure, c'est qu'il y a tellement d'empilage de collectivités territoriales entre l'État, la région, le département, la métropole, la communauté de communes. On a délégué des compétences au fur et à mesure du temps à toutes ces collectivités. Et donc, du coup, qui dit compétences, dit capacité à agir. Et donc, il faut faire une coordination entre tout ça et c'est très compliqué.
Ça veut dire que s'il y a un nid de poule dans votre commune, vous ne pouvez pas, vous, dépêcher un agent municipal pour le réparer ?
Alors, si, ça, je peux le faire. Si c'est une voie dite communale, en revanche, si c'est une route départementale, je dois m'adresser au département. C'est pas mon cas. Moi, j'ai une petite commune où j'ai pas de route nationale. C'était le cas. C'est l'État qui s'occupe du réseau national. Et vous voyez que déjà, rien que sur une réparation, on commence déjà à se croiser la tête. Et on passe beaucoup de temps à essayer de coordonner ces demandes d'intervention et également de financement, puisque le vrai problème aujourd'hui, c'est le financement. Le financement, ça coûte très cher pour une route, quelle que soit la route d'ailleurs. Oui. C'est à peu près 1000 euros le mètre linéaire.
Georges Fenech, vous voulez répondre à Luc ?
Oui, je partage ce qui vient d'être dit, mais je voudrais ajouter que ce n'est pas uniquement pour le confort des automobilistes qu'il faut améliorer l'état des routes. C'est qu'on estime qu'environ 30% de la mortalité routière est due au problème d'infrastructure routière. Donc vous voyez que C'est un sujet qui est très préoccupant.
Alors de la Normandie, on va aller en Lorraine rejoindre Philippe, un de nos auditeurs européens, qui est avec nous. Philippe, que nous n'avons plus. Alors on me dit qu'on l'a perdu, on a perdu le contact avec Philippe. Cet empilement dont parlait ce maire en Normandie, Luc, avec nous au téléphone, cet empilement administratif, c'est ça qui rend difficile aujourd'hui la restauration de nos routes.
Écoutez, franchement, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste. Une chose est certaine, si vous voulez, une fois de plus. Quand on voit l'état des routes, ça montre l'état du pays. C'est une manière vraiment presque physique de montrer le délabrement national d'un pays comme la France. La réalité, elle est là.
On a reculé de 18 places au classement mondial, alors qu'on était réputé pour avoir le meilleur routier au monde. Et là, tout d'un coup, petit à petit, en tout cas, ces dernières années, ça s'est détérioré. Ce qui, effectivement, est le signe aussi d'une détérioration générale de tous nos services, et des services publics. On pourrait citer la santé, la justice, etc.
Voilà. Luc, justement, ces moyens, vous les réclamez, vous les faites remonter. Vous avez la possibilité de demander à l'État ?
Oui, alors, en collaboration aussi avec tous les autres maires, et soutenu par l'AMF d'ailleurs, ce qu'on réclame, nous, surtout, c'est que quand on veut demander une subvention, au lieu de demander la subvention à l'État ou à la région ou au département, et des fois en empilant toutes ces subventions, on voudrait avoir un portail unique qui nous permettrait, donc tous ces gens-là se réunissent et puis on pourrait avoir une demande de subvention unique qui serait très très intéressante pour nous, parce que nous on dépense plus d'énergie souvent à demander des subventions qu'à agir sur le terrain, et tous les agents communaux malheureusement, ben on veut bien leur donner le feu vert, mais on n'a pas toujours le financement. C'est à peu près donc un quart de notre budget, en tout cas moi de notre budget dans la commune, où on fait un prévisionnel sur une année pour essayer de réparer les routes.
Est-ce qu'il faudrait un grand plan national ? Est-ce qu'il faudrait une vraie politique d'envergure ?
Moi, je pense que oui, et surtout la simplification administrative, c'est ce que réclament tous les maires. C'est-à-dire qu'on passe trop de temps à demander pour un financement plutôt qu'à agir. Vous voyez, si j'ai un message à faire passer, c'est celui-là.
Merci beaucoup, Luc, d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Il est 13h57. On apprend à l'instant, c'est une information Europe 1, qu'un homme serait retranché actuellement au consulat d'Iran à Paris, dans le 16e arrondissement. Il aurait sur lui des fils apparents, un périmètre de sécurité mis en place pour boucler le secteur. Donc, c'est cet homme qui est retranché au consulat d'Iran, alors que, on sait que cette nuit, des explosions ont été ressenties dans le centre de l'Iran, une semaine après les attaques sans précédent contre Israël. Il menacerait donc de se faire exploser, cet homme, dans le consulat iranien. On vous donnera plus d'informations dans nos prochaines éditions d'actualité, dès le prochain journal sur Europe 1. Merci Gilles William Goldenel, merci Georges Fenech d'avoir été avec nous, merci à nos auditeurs, Luc, le maire de Normandie qui était avec nous en direct, merci à vous de nous suivre. C'est la fin de cette tranche d'actualité, cette heure d'info continue toute la journée sur Europe 1. Plus d'informations dans un instant sur cette information d'un homme retranché au consulat d'Iran. On y revient dans le prochain journal, Michael.
Merci Thomas Chenel et bravo. Vous pouvez réécouter les émissions de Thomas de cette semaine sur le site et l'application Europe 1, et lundi ce sera donc le retour tour de Céline Giraud pour Europe 1 13h. Tous les week-ends, samedi et dimanche de 15h à 16h, Virginie Giraud vous envoie au cœur de l'histoire, à la rencontre de ces personnes inspirantes qui ont marqué le passé, de Ramsès II à Napoléon en passant par Van Gogh, que ce soit des artistes, des scientifiques ou des politiques. Demain, il sera question des plus grands complots de l'histoire, avec notamment l'affaire Stavisky, et dimanche, retour sur la naissance de Frankenstein. Au cœur de l'histoire avec Virginie Giraud, c'est samedi et dimanche, 15h, 16h sur Europe 1. Juste après les informations de 14h, vous retrouverez Christophe Ondelat pour un nouveau numéro d'Ondelat raconte Code B. Bel après-midi sur Europe 1. Europe 1.